Salut la commu, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je fais un épisode spécial. Effectivement, il n'y aura pas Maximilien avec nous. Je participe au Podcaston. C'est un événement à but non lucratif qui est proposé donc par podcaston.org. Et on est plus de 1500 podcasts sur cette même semaine à présenter une association de notre choix. Et aujourd'hui, l'association que je vous présente, c'est Kems Pause. Une association donc, qui a été cofondée par Sébastien, que nous interviewons aujourd'hui, et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'il met en place pour prévenir le chemsex et donc aider toutes les personnes qui sont victimes de cette addiction. Salut Sébastien, bienvenue dans le podcast de la Commune du Cul. Merci de participer à ce podcaston.
Salut Gaëlle.
Donc je suis ravie de t'avoir à notre micro. Donc première question, parce qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le chemsex ?
Alors, le chemsex, déjà, c'est une contraction de chemicals et sex qui consiste en une pratique de consommer des produits psychoactifs dans un cadre sexuel.
OK.
Alors, en l'occurrence, les gens utilisent cette pratique pour des raisons un peu particulières, c'est-à-dire recherche d'intensité, recherche de performance et puis de lâcher prise dans la sexualité en général.
C'est quelque chose qui est récent ou ça fait un moment que ça existe ?
Alors en fait, le chemsex, il existe un peu, je dirais, depuis toujours, ou peut-être depuis qu'il y a toujours eu des produits psychoactifs. Mais avant, on ne donnait pas de nom à ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 80, on aurait tendance à plutôt utiliser des extasies. Dans les années 90, c'était plutôt de la MDMA. Et puis après, dans les années 2000, est arrivée la drogue du viol, le GHB, GBL, qui s'est avéré être utilisé à des fins sexuelles, en cherchant quand même le consentement, hein, puisque on parle de la drogue du viol. Les gens entendaient parler du GHB comme quelque chose plus ou moins excitant, et donc c'est pour ça qu'ils ont testé. Ça, c'est un des produits parmi tant d'autres hein, utilisés dans le chemsex.
Alors, il va falloir que tu nous expliques en quoi, effectivement, c'est dangereux. J'imagine que dès qu'on parle de drogue, il y a de l'addiction. Et est-ce que le sexe devient un peu dépriorisé par rapport à la prise de drogue ou c'est quand même toujours corrélé ?
Bah, en fait, il y a plusieurs cas, évidemment. C'est toujours chacun son expérience avec le produit, avec la pratique. Mais effectivement, c'est une pratique très dangereuse. C'est important de le souligner puisque on joue avec des produits psychoactifs qui sont très addictifs. Alors, ceux qui sont le plus utilisés dans le chemsex en général, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est GHB, GBL. Bon, c'est la même chose, c'est-à-dire que juste le GBL est métabolisé par le foie en GHB, puisque le GHB est plus difficile à trouver, particulièrement en France, c'est interdit. Il faut quand même savoir que c'est un décapant. Voilà, c'est un décapant pour enlever la peinture et le goudron sur les enjoliveurs. Donc, c'est dire à quel point ça décape. C'est un peu comme si on vous disait, allez dans la salle de bain, prenez un petit peu d'acétone, vous en mettez un petit peu dans votre verre, avec un petit peu de sirop, puis ça va bien se passer. Mais c'est vrai que dans l'idée, on se dirait, mais ça va pas la tête ou quoi? Mais dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a aussi la 2-CMC aujourd'hui, principalement en France, mais encore connue sous le nom de 3-MMC, parce que c'était un phénomène de mode, la 3-MMC, qui est vraiment utilisée dans un cadre sexuel et aussi festif. En fait, ça donne envie, ça augmente la libido. Et puis, on a également le crystal meth, c'est un peu moins répandu en France, mais c'est quand même le cas, c'est quelque chose qui se fume, très répandu aux États-Unis, et la kétamine aussi, par exemple, qui est à la base un anesthésiant. Mais évidemment, le chemsex, chemical sex, ça ne veut pas dire que c'est que ces substances. Et donc, toute personne qui prendrait d'autres substances, type cocaïne, héroïne ou même LSD ou quoi que ce soit pour un but sexuel, serait du chemsex.
On a eu un épisode que l'on a fait avec Corentin. Je vous remettrai le lien de l'épisode qui était très intéressant. C'était un témoignage de quelqu'un qui était un ancien pratiquant du chemsex qui avait arrêté. Et on l'encourage encore aujourd'hui et bravo à lui. Et il nous expliquait vraiment que les soirées devenaient de plus en plus de la prise de drogue et que finalement, au bout d'un moment, même la sexualité, la pratique sexuelle était en train de se perdre, que c'était devenu un gangbang infini où on rajoutait encore et encore des personnes à l'intérieur, mais que finalement, la recherche de performance, elle était plus sur le nombre et sur combien je prends encore de drogue que vraiment la pratique sexuelle en tant que telle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces soirées justement de chemsex?
Oui, bien sûr, Gaëlle. En fait, c'est un peu là où le bât blesse. C'est-à-dire que dans la recherche d'intensité sexuelle, finalement, l'intensité que l'on trouve, ça va être le produit qui va la générer. Donc, c'est pas l'intensité avec son partenaire ou ses partenaires. Ça veut dire qu'en gros, on aura l'impression que la personne en face va être un bon coup, sauf qu'en fait, c'est lié au produit. Ça ne fait pas du tout du partenaire un bon coup. Ensuite, en termes de performance, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, pour un homme, pour avoir une érection, dans la consommation de produits psychoactifs, pour la plupart, bah, ça empêche l'érection. En tout cas, ça diminue l'érection, c'est pas évident. Donc, il va avoir consommation de Viagra. Jusque-là, c'est pas un problème, hein, pourquoi pas. Le souci, c'est que très souvent, il y a aussi consommation de poppers. Et le poppers, en fait, c'est aussi un vasodilatateur, comme le Viagra. Et les deux, ça fait un mélange vraiment explosif. Sur le principe, bah, on peut avoir un arrêt cardiaque lié à ce mélange. Et même si la personne qui a pris le Viagra ne prend pas de poppers, si la personne en face ou dans la chambre, etc., le poppers émane quotidiennement, eh ben, ça peut générer de vrais problèmes et donc potentiellement un arrêt cardiaque. Ensuite, bah ça c'est pour la performance, ça c'est pour l'intensité. Et après, évidemment, parfois il y a la performance en termes de temps. Et c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire, qui vont pratiquer le chemsex et qui vont potentiellement se dire tiens, on va faire une session. Et puis on dit ça va durer 2-3 heures. Mais le problème c'est quand on commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Et que bah parfois ça peut durer des heures, des jours. Ça peut être 3, 4, 5 jours, sachant qu'en plus de ça, les produits coupent toute sensation de soif, de faim, de douleur, de fatigue. On va penser qu'effectivement, c'est génial parce qu'on va pouvoir, pendant tant de temps, être dans des relations sexuelles. Sauf que bah, déjà, c'est hyper dangereux pour la santé parce qu'on ne va pas ressentir les douleurs. Donc, selon les pratiques, on ne va pas ressentir si ça nous fait mal. Donc, il se peut qu'il y ait des perforations, des choses comme ça. Ensuite, il peut aussi avoir le souci de, comme ça fait déjà des heures et des heures et des jours que l'on pratique le chemsex, on n'a pas bu, donc il y a des dangers de déshydratation. En plus de ça, il y a énormément de consommation. Donc, au début, la consommation peut être entre guillemets gérée, puisque on est sobre. Mais plus on va avancer dans le temps, plus on va consommer, moins évidemment on est sobre et moins on va gérer sa consommation. Et là, ça va être encore plus problématique parce que ça peut entraîner évidemment des overdoses. Ça peut entraîner de gros problèmes de santé sur le long terme, encore plus quand c'est utilisé jeune, parce que ça a des gros effets sur le système nerveux cérébral, surtout avant 26 ans, puisque le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc, on va vraiment avoir des gros soucis. Et malheureusement, bien malheureusement, ça peut aller jusqu'au décès de la personne, hein, puisque l'overdose peut entraîner un arrêt vasculaire cérébral. La personne va faire un coma. Alors souvent, ça va être un J-all ou un K-all, ou ça peut être un C-all si c'est de la cocaïne. En général, peu importe, c'est l'on prend la première lettre du produit avec all, parce que ça fait un trou noir et la personne perd connaissance. Et là, ça veut dire que la personne part dans un coma et que sa santé, sa vie est en danger. Et très souvent, et malheureusement, dans la pratique du chemsex, et particulièrement quand c'est à plusieurs et donc dans des partouzes, les personnes ne font pas forcément attention. Imagine que la personne est simplement endormie ou alors savent plus ou moins qu'elles sont dans une overdose, mais qu'elles vont minorer. Hein, c'est-à-dire qu'elles vont dédramatiser ce qui se passe, elles vont potentiellement simplement la mettre dans un coin, la laisser dormir. Et en fait, il se peut que la personne arrête de respirer, qu'elle fasse un arrêt respiratoire ou alors un AVC, etc. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait intervenir, malheureusement, la personne décède.
Ok. Tu as quelques stats sur le nombre de décès en France liés au chemsex ?
C'est très compliqué parce que malheureusement, moi l'année dernière, je faisais des auditions à l'Assemblée nationale justement pour un projet de prévention nationale sur le chemsex. Il faut savoir que le chemsex, c'est pas seulement Pierre Palmade, c'est pas seulement par exemple Andy Carbrac, quand on a entendu parler qu'il avait acheté des drogues dans un but chemsex. C'est-à-dire que le chemsex, c'est une pratique qui aujourd'hui est très répandue. Alors elle est beaucoup répandue dans le milieu LGBTQI+, mais elle est aussi très répandue dans le milieu hétéro-libertin. C'est un vrai problème de santé publique. Malheureusement, quand j'auditionnais, c'était pour avoir des stats sur cette pratique et les dangers et le nombre de décès potentiels. Malheureusement, on n'a pas ce genre de statistiques. Mais, par exemple, nous, on est basé à Paris, on a des contacts avec des hôpitaux, des personnes qui y travaillent, des médecins, etc. Simplement, par exemple, dans Paris Nord, dans ce que nous, on entend, on est sur un décès par semaine. Donc, c'est vraiment problématique parce que ça représente pas, évidemment, tout Paris, ni toute la région Île-de-France, et encore moins toute la France. Donc, un décès par semaine, ça veut dire que tous les week-ends, des personnes vont pratiquer le chemsex. Et malheureusement, il y en a au moins un dans Paris Nord qui va décéder Par exemple, on sait aussi qu'en janvier 2025, il y a eu 7 décès sur Paris Nord. Donc, on est déjà là sur plus de 1 par semaine. Et le vrai problème aussi, c'est tout ce qui va être derrière, parce que bah, malheureusement, dans la consommation des produits psychoactifs dans un cadre sexuel, au bout d'un moment, on perd un petit peu conscience. Hein, et on ne sait plus trop ce qu'on fait et avec qui. On se retrouve avec des personnes qui sont littéralement violées pendant ces partout ce chemsex. Même si au départ, elles étaient consentantes, elles sont venues pour avoir du sexe, pour consommer aussi. Donc, elles ont consommé en étant consentantes de ce qu'elles faisaient et de leur consommation. Mais au bout d'un moment, elles sont tellement high qu'elles ne savent plus dire ni oui ni non. Potentiellement, elles sont dans un état un peu léthargique et ça continue. Et malheureusement, bah, elles se font violer.
J'imagine que ça aussi accroît les IST, le fait d'attraper des IST, donc des infections sexuellement transmissibles.
Bah, tout à fait, tu soulèves un sujet très pertinent, c'est que bah, évidemment la plupart de ces pratiques, normalement, bon, il faut dans tous les cas se protéger. Se protéger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre un préservatif ou alors utiliser la PrEP. Ou alors potentiellement, si on est porteur du VIH et qu'on a un traitement efficace, on devient donc indétectable. Et quand on est indétectable, on est intransmissible. Donc là, la protection, elle est présente. Mais la consommation de produits psychoactifs fait qu'on va avoir tendance à oublier cette protection. Et donc, oublier de mettre un préservatif ou parfois même oublier de prendre son cachet PrEP. Et ça, c'est un vrai problème parce que on peut contracter effectivement beaucoup d'IST, les chlamydia, la gono, la syphilis, mais aussi le VIH si on ne fait pas bien attention au port du préservatif ou à une bonne observance de la PrEP, c'est-à-dire à bien prendre sa PrEP en temps et en heure sans sauter une prise.
Je sais qu'il y a certains modes de consommation qui peuvent être assez violents. Je pense à l'intraveineuse. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus ce qui existe ?
Le plus commun, c'est le sniff. Hein. On va inhaler le produit en poudre. Bon, ça, évidemment, il y a beaucoup de problèmes hein, suite au sniff. C'est que bah, il peut y avoir destruction des parois nasales. Carrément, ils peuvent mettre un doigt entre deux narines. Carrément, en dessous, on voit le palais. Et ça génère aussi des gros problèmes de respiration, en tout cas des infections pulmonaires. Ça peut être vraiment très dangereux, d'autant plus que bah, ça va dépendre aussi de la coupe, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a dans le pochon. Et parfois, il faut être clair, hein, déjà c'est bien d'analyser son produit, mais parfois on peut retrouver aussi du verre dans les pochons. Et les gens ont dit, mais pourquoi il y aurait du verre ? Bah, tout simplement parce qu'on achète le produit au gramme et que le poids bah, se fait aussi dans le verre. Donc, mélanger à ça, ça donne le gramme plus facilement. Et donc, après, il n'y a pas besoin que du verre pour que ce soit mauvais pour les narines. Hein. Juste le produit en lui-même, c'est le cas. Sachant que, par exemple, la 2CMC, c'est mélangé avec du chlore. Ensuite, tu parlais de l'injection. Là, c'est pareil. Donc là, l'injection, hein, on est sur des aiguilles, des seringues. Il faut que ce soit stérile et il faut surtout pas échanger les aiguilles. Et puis, il peut y avoir beaucoup de problèmes d'abcès, voire de nécrose en fonction, parce que bah, au début, on peut potentiellement réussir à s'injecter, mais plus on est high, moins on vise bien, on va dire. Hein. Puis, de toute façon, c'est pas forcément le fait de bien viser que ça n'entraîne pas des dangers. Puis après, il y a énormément d'autres types de consommation qui sont peut-être un peu moins courantes, mais on a, par exemple, qu'on va avaler directement, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une petite poche. Bon, l'extase, ça va s'avaler directement, mais il y en a certaines, certains autres produits, on va le mettre dans un petit papier, par exemple la cigarette, qu'on va avaler et puis on va se diffuser au fur et à mesure. Et puis il y en a carrément aussi, ils vont le mettre au niveau anal, c'est-à-dire qu'ils vont l'insérer comme un plug hein, pour que ça se diffuse au niveau anal, sachant que bah, là c'est pareil, ça va être un peu plus intense, un peu plus, ça va se diffuser avec le temps. Mais tout ça, ça génère énormément de problèmes, d'autant plus que quand on le met au niveau anal, si en plus on a des rapports sexuels derrière, peu de temps après, bah, ça veut dire que à travers la muqueuse de la verge qui va pénétrer, on va aussi droguer le partenaire. Donc en fait, là, on est. Si la personne se drogue aussi, elle ne sait pas que bah il va avoir du produit en plus. Donc ça peut très facilement augmenter les risques d'overdose.
Et j'ai un peu l'impression qu'on a une idée reçue sur le chemsex qui est très relié à l'univers homosexuel.
C'est effectivement une idée reçue, mais un petit peu comme à l'époque du VIH, j'ai envie de dire. Où on disait, ouais, c'est ça, c'est une maladie d'homosexuel. En vrai, pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, on sait très bien que même les stats au niveau du VIH, on est à plus de 52% de personnes qui contractent le VIH sont des femmes dans des rapports hétérosexuels. Donc là, en l'occurrence, la communauté LGBTQI+ est très touchée. Pourquoi ? Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'elle vit un stress minoritaire. Un stress minoritaire, c'est un stress lié à la société, ne serait-ce que d'avoir à se justifier de sa sexualité auprès de ses parents, parfois auprès de son travail, parfois auprès de ses amis, d'avoir un jugement porté sur cette sexualité-là. Mais il y a aussi tous les autres problèmes, parce que l'homophobie peut en être responsable, mais il y a aussi la transphobie, mais aussi la grossophobie, et toutes les phobies, quelles qu'elles soient. Et malheureusement, toutes ces phobies-là, il n'y a pas que la communauté LGBTQI+, qui les vit hein, et qui les subit. Il y a aussi les personnes hétérosexuelles. Et donc, en fait, la consommation de produits va potentiellement aider une personne qui serait victime d'obésité ou juste un peu grosse et mal dans son corps à s'accepter, à être potentiellement mieux acceptée par les autres, parce que elle-même consommant des produits psychoactifs, au bout d'un moment, bah, on ne fait plus trop attention avec qui on fait quoi. Il va y avoir cette chose-là qui va être un peu désinhibante et intéressante. Mais c'est valable pour tout le monde, que ce soit pour la communauté LGBTQI+, que pour la communauté hétérosexuelle. Alors, il faut quand même aussi savoir que bah, y a des personnes qui pratiquent le chemsex et qui n'ont aucun problème avec ça, qui savent donner des exceptions, des moments exceptionnels pour le pratiquer, en faisant très attention, en ayant toute la réduction de risque nécessaire. Mais malheureusement, la plus grande majorité des gens qui pratiquent le chemsex, sachant que c'est une pratique très addictive, sont donc dans des comportements addictifs. Une pratique addictive est dangereuse pour leur santé.
Il y a aussi quelque chose que Corentin, notre témoin, nous disait, que l'aspect social était aussi très important. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, si tu arrêtes, tout ton entourage ne veut plus forcément te parler. Enfin, quand je dis entourage, c'est tous ceux avec qui tu pratiquais le chemsex. En fait, tu perds pas mal d'amis. Et c'est assez fou, en fait, de voir à quel point cette pratique, qui a normalement lieu que dans des moments, comme tu disais, où on veut pratiquer une sexualité, peut avoir un impact sur ta vie sociale.
Tu soulèves un point hyper important, c'est que, par exemple, les personnes qui vont se diriger dans le chemsex, on se rend compte, en tout cas, aujourd'hui, par exemple, dans les groupes de parole que ChemSpose peut faire, ou dans toute autre rencontre vis-à-vis des personnes qui pratiquent le chemsex et qui veulent s'exprimer à ce sujet-là, très souvent, elles sont victimes de solitude et d'isolement avant la pratique. Et donc, cette pratique-là va être, entre guillemets, intéressante pour ces personnes, parce qu'elles vont avoir l'impression d'être acceptées dans un groupe. Elles vont, c'est une forme aussi de mimétisme, parce que malheureusement, il y a une forme de banalisation de la pratique. Et on se dit, bah, on va faire comme les autres pour appartenir à un groupe, pour avoir des amis. Et en fait, la consommation fait qu'on s'éloigne de ceux qui ne consomment pas et on se rapproche de ceux qui consomment. Et au bout d'un moment, quand on se rend compte que la consommation est problématique dans notre vie et qu'on veut l'arrêter et qu'on l'exprime, ben on dit donc à ceux qui nous entourent, qui sont en général pour la plupart des personnes qui consomment, on leur dit bah moi j'ai envie d'arrêter ou je suis en train de faire une pause parce que c'est problématique pour moi et il faut que j'essaie de m'en sortir parce que j'ai trop de problèmes dans ma vie à cause de ça. Et à ce moment-là, on ne valide plus la consommation des autres et donc les autres ne nous appellent plus et nous mettent à l'écart parce qu'on devient quelqu'un qui ne consomme plus. Et donc, ça devient vraiment problématique puisqu'on se retrouve à nouveau dans la solitude et dans l'isolement qui potentiellement nous avait amené à pratiquer le chemsex. Et c'est là d'autant plus difficile parce qu'on doit se sortir de l'addiction. Et je le rappelle, l'addiction, c'est une maladie, comme la dépression. Pendant très longtemps, la dépression, elle n'a pas été considérée comme une maladie. Aujourd'hui, on le sait très bien et on l'accompagne du mieux que possible. L'addiction, c'est la même chose. Donc, les consommateurs ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Et accessoirement, comme le disait notre cher ministre Retailleau, ils ne sont pas coupables. Et en plus de ça, ils n'ont pas du sang sur les mains. Si toutefois ils avaient du sang sur les mains, ce serait malheureusement le leur. Et c'est un combat permanent de sortir de l'addiction. Et d'ailleurs, on peut vraiment dire que c'est courageux et il leur faut énormément de force pour entamer ce parcours de soins.
Effectivement. Et du coup, je rebondis sur ça. C'est une des raisons, j'imagine, où tu as souhaité cofonder ChemSpose, une association qui est là pour les soutenir, pour arriver à être à leur écoute, à faire de la prévention également, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais aussi pour ces groupes de parole, pour écouter justement ces personnes qui souhaitent se sortir du chemsex. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la création du ChemSpose ?
Ouais, bien sûr. Bah, ChemSpose, au départ, c'était un compte Instagram, tout simplement. Et puis, moi, il s'avère que j'ai rencontré le créateur de ce compte, qui était justement un consommateur qui avait décidé d'arrêter, et c'est pour ça qu'il avait créé Cam's Pause, parce que c'était sa pause à lui. Et puis je l'ai démarché, puis on s'est très vite lié d'amitié. Ça veut dire qu'en plus de ça, je le connaissais d'un groupe de parole que je co-animais dans une autre association avant. On s'est rapproché, puis on a vu qu'on avait des objectifs communs par rapport à cette pratique et la nécessité absolue de faire de la prévention et de la réduction de risque. Parce que malheureusement aujourd'hui, la prévention sur le chemsex, elle n'existe pas. On fait principalement de la réduction de risque, mais on fait pas de prévention. Et la différence, c'est que la prévention, c'est à destination des personnes qui ne consomment pas encore. Et donc, c'est important parce que aujourd'hui, il y a des personnes qui démarrent leur sexualité avec des produits psychoactifs. C'est-à-dire qu'elles vont sur des réseaux de rencontres où la consommation de produits psychoactifs dans un cadre sexuel est entre guillemets promue. Et donc là, elles vont se dire « Ah bon, mais c'est quoi et pourquoi ?» Et on va dire « Mais c'est génial, ça désinhibe, c'est plus intense, tu verras, c'est génial. » Elles disent qu'elles ont 18 ans sur l'application, mais parfois, en général, elles ont 15, 16 ans. Et donc, elles démarrent leur premier rapport sexuel avec des produits. Et là, c'est catastrophique, puisque revenir à une sexualité sans produit qu'on n'a jamais connu, c'est vraiment très complexe. Et toute cette désinhibition qu'on peut avoir dans la consommation de produits psychoactifs, une fois qu'on arrête les produits, on est encore plus inhibé qu'on l'était avant. Hein. C'est-à-dire que même en plus, si on était dépressif avant, on est encore plus dépressif après la consommation. Donc, ça accentue toutes les problématiques. Ensuite, on voit aussi que beaucoup de personnes qui pratiquent le chemsex ont des problématiques et des traumas non résolus, des problèmes psychologiques aussi, hein, parfois qui sont un peu enfouis. Et donc ça, c'est important d'aller chercher les racines de la consommation, de mieux comprendre pourquoi les gens se dirigent vers les produits. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire en créant Cam's Pause, l'association, c'est de pouvoir apporter un espace safe, bienveillant, pour écouter les personnes qui consomment et qui veulent s'en sortir, mais aussi pour pouvoir parler à toutes les personnes qui ne consomment pas encore et leur expliquer qu'est-ce que le chemsex, pourquoi les gens le font, comment le faire potentiellement dans les meilleures conditions et surtout en tout état de cause. Parce qu'il y a tellement de flou sur le chemsex, sur ce que c'est, que bah, les gens finalement rentrent dans cette pratique sans vraiment savoir les risques qui sont encourus. Et parfois, simplement par mimétisme, ils vont le faire. Alors que s'ils avaient toute la prévention nécessaire en amont, potentiellement, ils ne se dirigeraient pas vers la pratique du chemsex. Et donc nous, en tant qu'association, ce qu'on propose, c'est des groupes de parole. Par exemple, tous les vendredis soirs, des groupes de parole à destination des consommateuristes. Donc, c'est mixte en termes de genre et de sexe, hein, enfin de sexualité. Après, on a une fois par mois un groupe le dimanche qui permet de venir avec un consommateur ou consommatrice, mais aussi un père aidant ou une père aidante ou une personne ressource, si vous voulez. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui va accompagner une personne dans son parcours de soins. Quelqu'un qui est avec un consommateur ou une consommatrice qui a envie de faire une pause ou qui est en recherche d'abstinence. Et donc, on va pouvoir les recevoir ensemble dans un groupe et pouvoir un peu démystifier, déstigmatiser tout ce qu'il y a autour de la pratique du chemsex. Et puis, il faut dire ce qui est, hein, le chemsex, c'est aussi deux sujets tabous, à la fois la drogue et à la fois le sexe. C'est important, dans cette prévention et dans cette réduction de risque, d'enlever le tabou pour les deux et surtout de revenir à une sexualité épanouie et plus saine. Et en plus de ça, comme tu en parlais tout à l'heure, évidemment, les personnes sont victimes de solitude et d'isolement. Et pour casser cette solitude et cet isolement et les accompagner à rencontrer différemment, on organise des activités sociales qui permettent en fait de pouvoir se retrouver autour, par exemple, d'un après-midi jeu de société. On fait également, là ce soir, on va faire un bingo drag dans un bar.
C'est quoi un bingo drag?
Un bingo drag, en fait, on joue au bingo pour gagner des lots. Et c'est une drag queen qui va le présenter. Ah, voilà, c'est un bon moment, ça va durer 4 heures. Il y a aussi du lip sync, etc. Donc, les personnes peuvent se retrouver et donc avoir à nouveau une vie sociale et rencontrer des nouvelles personnes autrement qu'à travers les réseaux ou les tous chemsex. Il y a, par exemple, la semaine prochaine, on va faire un laser game. Okay. Là, je crois que tu sais ce que c'est.
Ouais, j'adore ça.
Exactement. Donc, on va faire un laser game et puis, il y a évidemment plein d'autres choses à venir comme de l'acting, de la danse, du théâtre, du yoga, de la méditation. Et pour ça, c'est hyper important, pour revenir à des activités. Mais on va faire, quand les beaux jours arriveront, des pique-niques, des choses comme ça pour pouvoir renouer avec une vie sociale nécessaire à un parcours de soins soutenu et bien accompagné.
Comment on fait pour adhérer à Cam's Pause?
Alors, pour adhérer à Cam's Pause, déjà, sur campspause.fr, on a un site internet. Il y a un onglet adhésion. Et puis, on adhère directement. Dans ce cas-là, on devient membre de l'association. Ou alors, sinon, bah, simplement, on peut faire des dons. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est une association qui a été créée en septembre 2024. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore un an d'activité. Et donc, on n'a pas le droit à des subventions de la part de la ville de Paris, par exemple. Parce qu'il faut avoir un an d'activité pour pouvoir fournir un rapport. Et aujourd'hui, bah, on voit bien qu'on répond à énormément de besoins et à beaucoup de personnes. Néanmoins, on est un peu démunis financièrement puisque bah, c'est principalement le secrétaire et moi qui mettons de l'argent dedans et aussi quelques dons de la part de consommatrices qui veulent s'en sortir et qui, plutôt que de mettre de l'argent dans les produits, bah, nous donnent de l'argent pour pouvoir participer à des groupes, alors que les groupes, évidemment, sont parfaitement gratuits. Hein. Mais en tout cas, ils sont très intéressés par l'association, très investis aussi. Donc, ils nous aident un peu. On a des établissements aussi de nuit, etc., parfois de cruising, qui valident notre association, nous donnent beaucoup de soutien et donc parfois nous donnent un peu d'argent pour nous en sortir. Mais malheureusement, c'est encore trop peu. Bah, évidemment, chacun est libre d'adhérer ou de donner.
Je mettrai le lien sur l'épisode Spotify et puis sur les autres plateformes d'écoute. Également sur Instagram, on va se mettre en collaboration pour que vous découvriez le compte Kemspose sur les réseaux, qui est aussi sur X, Insta.
Ouais, le groupe Telegram qui est réservé évidemment aux consommatrices.
Ok, ça marche. Et Sébastien, en plus, tu es aussi sexothérapeute à côté. Est-ce que tu accompagnes des personnes? Est-ce que, en tout cas, avec ce skill supplémentaire, on peut aussi te contacter pour prendre des séances avec toi?
Bah oui, bien sûr, exactement. C'est quelque chose qui était vraiment important pour moi aussi, de devenir sexothérapeute pour mieux accompagner dans l'association. On peut évidemment prendre rendez-vous. En l'occurrence, moi, je le fais pour moins de 26 ans aussi, un petit tarif particulier. C'est hyper important. Hein. En tant que sexothérapeute, forcément, j'accompagne des personnes qui pratiquent le CAMSA. Sexe via aussi mon association, vu que j'ai de la visibilité là-dessus. Et c'est hyper important pour moi de pouvoir le faire parce que l'intérêt, c'est aussi de les aider dans le parcours de soins à retrouver une sexualité sans produit. Et c'est ça, parfois, qui est difficile parce que dans l'arrêt de la consommation, très vite et malheureusement, hein, puisque le sexe est lié à la consommation, en arrêtant la conso, ils arrêtent le sexe. Et le sexe aussi est très important pour l'épanouissement psychologique, hein, et donc c'est important aussi de pouvoir renouer avec une sexualité sans produits, saine et épanouie, et puis aussi enlever tous ces tabous sur les kinks, etc., et pouvoir en parler librement.
Bon, ça, on s'en occupe à la commu du cul, clairement aussi. Bah, écoute, c'est merci.
Très bien, d'ailleurs.
Ouais, c'est chouette. Merci énormément, Seb. Je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu aimerais nous partager ou si tu as pu exprimer tout ce que tu avais envie sur ton association et sur cet univers lié au CAPSEX.
Bah, moi, je rajouterais simplement, j'aimerais juste un peu plus de bienveillance et moins de stigmatisation vis-à-vis des consommateurs, et je dirais plus particulièrement vis-à-vis de la société, du gouvernement en général, mais pour que les autres, justement, ne stigmatisent plus et arrêtent de discriminer, hein, faut vraiment être plus bienveillant vis-à-vis des personnes qui souhaitent s'en sortir. En tout cas, c'est hyper important, parce que l'addiction, je le rappelle, est une maladie. Il faut de l'empathie aussi pour mieux les comprendre. Je sais que parfois, pour certaines personnes, c'est pas évident, mais croyez-moi, c'est des belles personnes aussi, et elles méritent tout ça, ce support et ce soutien. Et donc voilà, juste un peu plus de bienveillance, s'il vous plaît. Merci.
Super, bah merci beaucoup Sébastien, je te remercie. Merci à la commu du cul de nous avoir écoutés. C'était un épisode qui était important pour nous de le faire. En tout cas, ça nous tient à cœur. Et évidemment, n'hésitez pas à aider cette association et puis toutes les autres qui sont portées par tous les podcasts durant cette semaine de podcaston. Donc voilà, c'est peut-être la semaine où on a envie de se dire, tiens, j'ai envie de faire quelque chose de bien et de participer et d'encourager. Donc n'hésitez pas à faire un don, je remettrai le lien encore une fois sur les réseaux. Merci Seb. À très bientôt.
Merci Gaëlle.
Au revoir. Bientôt. Salut.